Ζημιών του Ευρώπη.
Ρεσκρούτσια Ευρώπη.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. C'est peu dire que les Européens ont le blues. De Tallinn à Lisbonne, en passant par Paris ou Varsovie, les Européens s'interrogent. Quel est le sens de ce vivre en commun qu'implique l'appartenance à l'Union Européenne alors qu'autour d'eux, à Washington, à Moscou, à Ankara, pour ne prendre que ces exemples, le repli sur soi a le vent en poupe. Le départ des Britanniques désormais sur les rails accroît ce malaise latent qui se manifeste presque partout en Europe par une montée en puissance des populismes de droite ou de gauche, que l'on peut aussi qualifier d'euroscepticisme ou d'europhobie, selon la virulence des propos tenus. Que s'est-il passé pour que l'Europe, longtemps acclamée pour avoir maintenu la paix sur le continent, pour avoir permis à chacun d'entre nous de vivre dans un état de droit, le tout dans une relative prospérité, que s'est-il passé pour qu'aux yeux d'un grand nombre d'Européens, l'Europe soit perçue désormais comme une partie du problème et non pas de la solution? Dans cette émission, j'ai reçu des politiques, des économistes, des politologues et bien des spécialistes de la chose européenne, mais jamais un philosophe. Autant dire que nous allons vivre une première avec vous, Jean-Marc Ferry. Bonjour.
Bonjour Daniel Desesquel.
Votre seule présence à ce micro atteste que l'heure est grave, que nous vivons une période de grande incertitude, car sinon pourquoi inviter un philosophe? Mais Jean-Marc Ferry, vous n'êtes pas un philosophe quelconque, puisque vous êtes titulaire, entre autres, de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Je crois même que c'est l'unique chaire du genre.
C'est exact, c'est l'unique. En tout cas, c'est la seule qui porte ce nom, de la philosophie de l'Europe.
Qui a eu l'idée de créer cette chaire?
Eh bien, c'est un collègue qui m'avait invité à faire quelques cours à l'Université de Nantes. Et il se trouve que ce collègue était venu me voir lorsque j'enseignais à l'Université libre de Bruxelles pour sa thèse sur Ricoeur et Habermas. Et il m'a rappelé que je l'avais reçu longuement et il avait donc gardé un bon souvenir de moi. Et puis je lui ai dit que voilà, je n'enseignais plus maintenant à l'Université de Bruxelles et que j'en souffrais. Et il a des insomnies, ce cher collègue. Et vers 3h du matin, il a écrit à des gens de la métropole de Nantes, qu'il connaît bien, le milieu politique, et qui désiraient avoir une vitrine pour leur université. Il leur a proposé tout simplement mon nom. Et le lendemain matin à 8h, banco, allez-y. Et voilà, c'est toute la difficulté, c'était que l'administration suive, mais sinon...
Ça suffit. Alors, en quelques mots, en quoi la philosophie peut-elle participer à la compréhension de l'Europe aujourd'hui?
C'est important de connaître le sens du projet européen. Maintenant, il faut pas faire de la philosophie pure avec l'Europe. Il faut entrer vraiment résolument dans les questions économiques qui sont très importantes, questions économiques, financières, monétaires, les questions sociales également, les questions institutionnelles aussi. Mais la philosophie est importante. Pourquoi? Parce que il y a une crise, comme on sait, mais le mot n'est pas excessif, je crois. C'est pas seulement une crise technique de gouvernance économique en zone euro. C'est pas non plus seulement une crise, dirais-je, éthique de solidarité entre les États membres. C'est fondamentalement une crise philosophique, dirais-je, de légitimation du projet européen lui-même aujourd'hui. La crise du projet européen, c'est aussi une crise d'identité au sens, une crise du sens de où va-t-on, pourquoi continue-t-on la construction.
On va évidemment y revenir. Merci en tout cas Jean-Marc Ferry d'avoir accepté d'être au carrefour de l'Europe et de tenter de nous aider et y voir un peu plus clair sur les racines de ce désappointement européen, et puis peut-être aussi de nous donner quelques pistes pour sortir de cette torpeur. Alors Jean-Marc Ferry, ce désamour en France en tout cas, de l'Europe, on a l'habitude de la dater autour de 2005, année du non au référendum constitutionnel. Pour mémoire, 2005, c'est juste un an après le grand élargissement vers les pays d'Europe centrale et orientale qui a fait passer l'Union européenne de 15 à 25 membres. 2005, c'est une date charnière pour vous ?
Moins importante que les années 90, la fin du siècle écoulé. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, je parlais tout à l'heure d'une crise de légitimation du processus européen. Que s'est-il passé ? Les grands événements. C'est principalement l'écroulement du bloc soviétique, c'est la chute du mur de Berlin. Alors voyons la chose suivante, c'est que au départ du projet européen, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la grande légitimation, côté européen en tout cas, Côté américain, c'était légèrement différent. C'était plus de guerre civile, disait-on à dessein, plus de guerre civile européenne. C'est-à-dire que nous sommes tous, en vérité, tous des Européens. Il faut que nous cessions de nous faire la guerre. Ces fameuses guerres en chaîne dont parlait Raymond Aron et qui ont failli disloquer l'Europe. Donc le motif fondamental et la légitimité fondamentale du projet au départ, c'était la paix européenne. Plus de guerre. Et à tort ou à raison, lorsque le bloc soviétique s'est écroulé, on a cru que le danger de, qu'on dit pantoclastique, de destruction totale, le danger nucléaire, était passé. C'était le monde unipolaire, c'était la fin de l'histoire au sens de Francis Fukuyama, c'était la mondialisation heureuse, etc. Donc le motif premier, la paix et le défi, guerre ou paix, est passé à l'arrière-plan et la classe politique n'a peut-être pas eu la présence d'esprit, dirais-je, de donner une légitimation de relève. On continue parce qu'on continue, parce que l'Europe, c'est bien, des légitimités creuses de cette façon. Il y avait aussi ce qui dominait cette métaphore stupide du vélo. Il faut continuer à pédaler.
Sinon on tombe, on
s'arrête. Sinon on tombe, voilà. Mais c'est idiot, c'est pas donné du sens, n'est-ce pas?
Alors en 90, l'Europe, c'est l'Europe de l'économie.
Oui, mais ça, il le fallait, ça ne date pas de 90, il faut bien dire que, au départ du processus de la construction européenne, quelle était la puissance dominante? Ben, c'était évidemment la France, parce que l'Allemagne était out, ça va de soi, c'était vaincu, l'Italie, c'est pareil, et il n'y avait que les petits pays en dehors de la France, il y avait le Benelux et tout, nous étions six
pays.
Et donc c'est la France qui a donné le là. Et en France, c'était notamment Jean Monnet, et évidemment aussi Robert Schuman. Mais, Jean Monnet avait une doctrine bien précise qui a eu sa valeur, sa validité en son temps, dirais-je. Mais c'était que deux choses. C'est d'abord, il ne faut pas associer les peuples au processus parce qu'ils n'en ont aucune expérience. C'est donc une affaire technocratique. Mais c'était avec une vraie ferveur de service public, n'est-ce pas? C'était pour l'intérêt supérieur de l'Europe. Simplement, il avait une conscience très, très profondément technocratique. La légitimité actuel, pour lui, c'était plus la légitimité proprement démocratique. Bien sûr, on ne peut pas se dispenser d'une certaine caution populaire, mais les problèmes étant complexes, difficiles, techniques, etc., il fallait des experts. Et la construction européenne étant une affaire technique et difficile, on ne pouvait pas véritablement la mettre en arène. Donc, ça, c'était une donnée. Puis l'autre, et j'en viens directement à votre proposition, l'autre, c'était... Il nous faut être réaliste, une utopie réaliste en quelque sorte, c'est-à-dire commencer par solidariser les peuples, et à commencer évidemment par la France et l'Allemagne, sur le plan économique, c'est-à-dire solidariser leurs intérêts de telle façon qu'ils ne puissent plus entrer en antagonisme. Donc ça, c'est une vieille idée, n'est-ce pas? Au XVIIIe siècle, déjà, on parlait du doux commerce. Donc là, c'était plus le commerce, c'était l'industrie. Et donc, la communauté européenne du charbon et de l'acier, le ratome aussi, enfin, ce furent les premières institutions qui devaient solidariser économiquement. Mais le but restait politique. Le but restait l'union politique. Simplement, bien entendu, il fallait d'abord construire l'union économique et un grand marché.
Alors, après le grand marché, 90, auquel vous faisiez référence, 92, c'est le traité de Maastricht, on passe du grand marché à l'idée d'une monnaie commune, voire d'une monnaie unique. C'est l'euro qui se met tout doucement en place.
Oui, mais là, on est toujours dans la mentalité Jean Monnet, avec sa doctrine fonctionnaliste. L'idée, ce qu'on a appelé l'engrenage ou le spillover en bon français, c'est-à-dire l'idée que le processus était quasiment automatique. C'est une forme de dogmatisme, vous voyez, encore une fois, en son temps, ça pouvait se justifier, mais plus maintenant. C'est-à-dire, le marché commun conduit normalement à l'union douanière, à la libération des frontières intérieures, et puis de là, on va être conduit à la monnaie unique, et puis de là, on va être conduit, etc., etc. Comme si chaque étape dans la construction européenne imposait une étape ultérieure, n'est-ce pas? De façon quasiment mécanique. Et de telle sorte que c'est simplement du point de vue technique et non pas du point de vue de l'adhésion des citoyens que se justifiait la continuation du processus. Et donc, du coup, on considérait que c'était absolument logique de continuer à aller de l'avant sans accompagnement des peuples et de l'onction populaire, dirais-je.
C'est-à-dire qu'un peu les Européens regardaient un peu, c'est comme un peu la caravane du Tour de France, c'est-à-dire cette Europe qui se construit, et puis les Européens restent un peu des spectateurs.
Voilà, donc encore une fois, c'était justifié dans les premières années de la construction, à mon avis. Et ce qui s'est passé, voilà pourquoi aussi je vous parle du tournant des années 90, qui sont à mes yeux le vrai tournant, parce que d'une part, il y a le fait que la légitimité première, inaugurale de la paix et de la guerre soit passée au second plan, à tort ou à raison. Peut-être qu'à l'époque, la situation n'a jamais été aussi dangereuse, à vrai dire, que lors de l'écroulement.
On a pu l'oublier.
Oui, mais on pensait, à tort ou à raison, que le danger était de guerre était écarté. C'était la fin de la guerre froide, qui avait commencé en 1948. Et puis, on n'a pas, encore une fois, voulu donner une légitimation de relève. La classe politique n'a pas dit, voilà pourquoi nous continuons, voilà quel est l'enjeu, voilà quel est le nouveau défi. Ils n'ont pas dit, pour parler clair, il y a maintenant un nouveau défi qui est très important. C'est le défi de la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire?
Juste un instant. Oui. L'idée de lancer l'euro, c'était une erreur ou c'est la façon dont l'euro a été lancé qui a été un petit peu maladroite?
C'est pas seulement que ça a été maladroit. L'euro en soi n'est pas une erreur. Encore qu'on puisse discuter, savoir s'il ne valait pas mieux s'en tenir à une monnaie commune plutôt qu'à une monnaie unique. C'est-à-dire garder des monnaies nationales avec cet étalon qu'aurait été l'euro ou l'écu, comme on l'appelait avant.
Et ça a fonctionné comme ça, il y a eu une période
de transition. Oui, il y a eu cette période-là. Mais admettons, monnaie unique. Mais la monnaie unique a des implications très très lourdes. Et si, dans la zone euro, on établit une monnaie unique sur une zone qui économiquement est très hétérogène, très grande disparité entre les situations du Sud et du Nord.
Eh bien, deux mots, l'économie de l'Allemagne ne ressemble pas à celle de la Grèce.
Bien sûr, c'est clair, mais plus encore, je dirais que l'économie des pays germaniques au sens large sont bien différents, présentent une physionomie très différente des pays méditerranéens.
Elles sont notamment très industrielles.
Et il y a une désindustrialisation galopante au Sud, y compris en France. Donc il y a cette hétérogénéité très forte du point de vue économique. Quand on impose une monnaie unique, on instaure une monnaie unique sur une zone économiquement très hétérogène, il faut des mécanismes compensateurs. Il faut des mécanismes de péréquation. Et il faut surtout, permettez-moi, au lieu de faire ce que l'on a fait, c'est-à-dire confisquer les politiques budgétaires purement et simplement, agencer une complémentarité, c'est un peu technique, pardonnez-moi, entre les déficits et les excédents budgétaires du Nord et du Sud.
C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être en excédent?
Ah oui, mettre en exergue l'exemple allemand, comme on dit, c'est ridicule. Tout le monde ne peut pas être exportateur net. Ça va de soi. Comme disait très justement Helmut Schmidt à ses compatriotes, nos excédents sont les déficits des autres. Cela veut dire aussi que aujourd'hui, il est tout à fait anormal, et d'ailleurs ce n'est pas dans les critères de Maastricht, que l'Allemagne soit structurellement en excédent de ses balances extérieures, au-delà de 5%, et elle devrait, à mon avis, de même que le Nord en général, consentir des déficits calculés de ses propres budgets internes, c'est-à-dire une relance intérieure de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier, même s'il y a peu de chômage en Allemagne, il y a une très grande pauvreté. Un taux de pauvreté plus élevé qu'en France, n'est-ce pas?
Et des infrastructures déficientes.
En plus. Mais cette relance intérieure de l'Allemagne eût permis aux pays du Sud de rétablir leurs équilibres financiers et leurs balances internes et externes sans le payer d'une récession économique et d'une régression sociale. Donc il y avait un jeu solidaire à plusieurs à organiser, ce qui présuppose une autorité. Un président de l'Union et par pitié un seul, évitons l'armée mexicaine au niveau de l'Union européenne.
Du président du Parlement, du président de la Commission, du président du Conseil.
Ouais, voilà. Et qui dispose de l'autorité et de la légitimité suffisante pour imposer ce jeu solidaire et co-responsable entre les États membres.
Mais Jean-Marc Ferry, quel est le poids de l'histoire si l'Allemagne réagit ainsi? C'est qu'elle a été traumatisée entre les deux guerres par justement ce drame de la République de Weimar qui s'effondre, cette inflation à 3-4 chiffres. L'attitude de l'Allemagne aujourd'hui, elle est aussi le fruit de son histoire.
D'abord, ça devient un mythe, largement un mythe, même si c'est vrai historiquement. Bon, l'Allemagne peut se remettre de ce traumatisme de l'inflation galopante de l'entre-deux-guerres. Deuxièmement, comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne, maintenant, ne se contente plus simplement de veiller à la tenue de l'euro par rapport au dollar et aux autres monnaies, mais elle pratique ce qu'on appelle « quantitative easing », c'est-à-dire elle met beaucoup, beaucoup de monnaie en circulation. Elle déverse des tombereaux d'euros par hélicoptère,
si j'ose dire. Beaucoup d'eau dans sa rigueur.
Ce qui ne fait pas de plaisir du tout, d'ailleurs, aux ordolibéraux, allemand. Et puis, troisièmement, je dirais une chose très simple, c'est que de toute façon, la politique monétaire, y compris celle de quantitative easing, elle est loin de suffire avec des taux d'intérêt négatifs. Tout ça, c'est pas ça qui va inciter les entreprises à investir. Donc, il faut aussi des politiques budgétaires et celles-ci sont confisquées. Donc, on est dans l'impasse pour le moment.
Alors, comment sortir de cette impasse de l'euro? Puis après, on va changer un peu de sujet, bien évidemment.
Mais c'est important.
Mais c'est essentiel parce que le ressentiment que les Européens ont à l'égard de l'Europe, il est notamment à travers l'euro, notamment dans les pays du Sud. Vous avez mentionné la Grèce, mais on peut aussi parler de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, voire de la France. Certains candidats à l'élection présidentielle disent, mais il faut sortir de l'euro pour s'en sortir.
Voir les Pays-Bas, voir l'Autriche, etc., etc. Il y a un vrai problème lié à la situation en eurozone, n'est-ce pas? Et nous devons prendre au sérieux ce que l'on appelle les populistes ou les eurosceptiques ou les europhobes, etc., ou les souverainistes. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non du côté de, que sais-je, Marine Le Pen ou très différemment, Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est de savoir quel est le bien fondé de leurs critiques. Et il y a du bien fondé dans ces critiques adressées à la situation européenne. Et donc, au lieu de stigmatiser l'euroscepticisme et l'europhobie et le souverainisme, on doit prendre au sérieux la question, la prendre à bras-le-corps. Sinon, on fera monter les extrêmes.
Ce qui veut dire prendre les choses au sérieux, c'est sortir d'un certain dogmatisme que vous évoquiez à l'instant.
Oui, souriez, c'est européen, allons de l'avant, il faut plus d'Europe, les eurosceptiques c'est mal, etc. Toute cette chanson est ridicule, est tout à fait déplacée aujourd'hui. Il nous faut discuter sur le fond, vraiment, qu'est-ce qui va mal en zone euro? On ne peut pas rester dans les fameux clous de la règle d'or, etc.
Mais elle est en train de s'assouplir. On a reçu ici, il y a quelques semaines, Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, et il nous a expliqué qu'on allait vers un assouplissement dans l'orthodoxie budgétaire. Et c'est vrai, l'Espagne, l'Italie, voire la France, qui ont allègrement dépassé les 3% de déficit public, n'ont pas été sanctionnés par la Commission européenne.
Oui, d'abord, on ne peut pas faire autrement que d'assouplir. Et puis, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les Allemands avaient fait ça déjà bien avant, discrètement, n'est-ce pas, avec l'autorisation, d'ailleurs, de Jean-Claude Juncker à l'époque. Mais la question, ce n'est pas d'assouplir. La question, c'est de coordonner les politiques budgétaires, de mettre en synchronisation intelligente les excédents des uns et les déficits des autres. C'est la seule possibilité que nous ayons. Nous ne pouvons pas nous permettre des relances sauvages par des déficits budgétaires. Nous ne pouvons pas recourir à nos banques centrales nationales pour faire des avances au trésor. Aujourd'hui, figurez-vous, c'est la Banque Centrale Européenne qui prête sans intérêt aux banques privées, et c'est les États qui doivent se financer auprès des banques privées, en payant, eux, des taux d'intérêt. Donc, la situation est tout à fait anormale, mais elle est ce qu'elle est, et dans une situation comme celle-là, où les budgets nationaux sont sous les diktats des marchés, et sous l'épée de Damoclès d'une hausse éventuelle des taux d'intérêt, ce qui ne va pas manquer d'arriver d'ici quelques temps, eh bien, il nous faut absolument organiser la combinaison intelligente des déficits et des excédents budgétaires entre les 18.
Et selon vous, on en prend le chemin ou pas?
Non, c'est très gentil de dire ça, mais c'est tout à fait lénifiant, ça ne suffit pas, loin s'en faut. Il faut pas assouplir, il faut dire aux États membres, nous allons organiser les relances économiques d'un côté, les rééquilibrages financiers de l'autre. On ne peut pas agir de façon égoïste, les Allemands doivent cesser d'agir de façon égoïste. Et le Sud... Vous savez, il y a toujours ce même dialogue de sourds. Les Allemands disent « soyez responsables » et le Sud dit « soyez solidaires ». Mais solidarité demandée au Sud, responsabilité demandée par le Nord au Sud. Et la synthèse de la solidarité et de la responsabilité, c'est tout simplement la co-responsabilité. Soyons enfin co-responsables entre les États membres de la zone euro et au niveau par pitié, au niveau des politiques budgétaires, la politique monétaire de la Banque Centrale ne suffit pas et ne suffira jamais.
Jean-Marc Feuillon, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Priorité santé.
Nous aimons toute l'Europe.
Rescrucia Europei.
Σταυροδρόμητης Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Ferry, professeur de philosophie et titulaire de l'unique chaire en Europe et au monde de philosophie de l'Europe. Jean-Marc Ferry, vous l'exercez à l'université de Nantes. Dans cette période de grande incertitude, de grand désarroi des Européens, de perte de repères quasi généralisée, j'ai donc invité un philosophe pour nous aider à y voir un peu plus clair sur les raisons de ce désappointement, avec le secret espoir qu'il nous donnera peut-être quelques pistes pour retrouver le sourire. Dans la première partie, Jean-Marc Ferry, on a beaucoup parlé de l'euro, de la nécessité de réformer, de redonner du sens, de réformer les institutions. Je voudrais qu'on évoque quand même un grand fait d'actualité. Le grand fait d'actualité en ce moment, c'est le Brexit. Qu'est-ce que signifie pour vous, philosophe de l'Europe, ce Brexit? Un phénomène purement britannique, les Anglais ayant toujours eu un pied dedans et un pied en dehors de l'Union européenne, ou un phénomène beaucoup plus profond?
Il y a deux choses, à mon avis. Il y a d'une part la sanction, j'allais dire immanente, d'une attitude qui a toujours été celle des Britanniques, et surtout en particulier des Anglais, car il nous faudra maintenant faire la différence à l'intérieur des Britanniques. Les Britanniques ont eu un rapport dès le départ, avant même d'entrer dans l'Union européenne, ils ont eu toujours un rapport utilitariste à l'Union, et ils avaient en même temps une philosophie qui n'est pas celle de l'Union douanière, mais qui est celle de la zone de libre-échange. Vous savez qu'ils avaient créé cette zone concurrente, l'AELE, n'est-ce pas, avec les Scandinaves notamment, qui n'était pas le même principe que celui de la communauté européenne à l'époque. Car la philosophie des Britanniques, c'était d'ouvrir complètement les frontières aux cours mondiaux. C'est-à-dire d'avoir des cours mondiaux de matières premières et de produits alimentaires assez bas pour avoir des salaires bas, des produits industriels bas et être compétitifs donc sur les marchés mondiaux. C'est une autre philosophie que celle de la protection proprement européenne. On pense aux grandes heures de la politique agricole.
C'était aussi avant la montée des pays émergents, bien évidemment.
Bien sûr, c'était bien avant, oui. Et d'autre part, donc il y avait ce rapport utilitariste qui, j'y reviens tout de suite, c'était cette idée que, et j'ai pu le constater, dirais-je, in vivo, que l'Europe est un club. Voyez-vous, c'est une certaine conception qui n'est pas du tout celle d'une communauté solidaire et co-responsable. C'est un club avec l'idée des mutual benefit societies, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je retire de l'association. Et donc, c'est pas un hasard si on a retenu cette parole de Margaret Thatcher, de My Money Back, et ce rapport-là à l'Union européenne, qui a eu des effets de contagion dans le monde slave, notamment, n'est pas tenable. C'est un facteur de dislocation de l'Union. Ce rapport au utilitarisme.
Dans la première partie, on a évoqué à plusieurs reprises le mot de solidarité. Évidemment, ce mot est complètement en dehors de l'état d'esprit des Britanniques, et on verra oui ou non des pays slaves ou des pays d'Europe centrale.
Ça, c'est l'aspect négatif. Mais il y a un aspect positif, du point de vue britannique aussi, c'est que les Britanniques ont de longue date, plus anciennement que tout autre, peut-être à part les Pays-Bas, une forte culture démocratique et parlementaire. Et ils ont cette exigence que nous pouvons comprendre et que nous partageons aussi largement, qui est d'être de près ou de loin, mais plutôt de près que de loin, les auteurs des normes dont ils sont les destinataires. Et ils n'aiment pas que les normes leur tombent du ciel et qu'un système, si j'ose dire pseudo-naturel, se stabilise au-dessus de leur tête.
Et ce système, c'est Bruxelles, entre guillemets.
Oui. En fait, c'est pas Bruxelles, voyez-vous, c'est très injuste. C'est le Conseil, beaucoup plus que la Commission, qui est responsable de cet état de choses. Mais c'est vrai qu'il y avait une exigence démocratique. Puis il faut ajouter une troisième chose qui est moins positive, c'est aussi la peur des migrants. Mais je vois ces deux éléments. Un rapport qui n'a jamais été satisfaisant à l'Union européenne, qui a toujours été utilitariste, et puis une exigence démocratique forte. Alors cela ensemble, ça explique, sinon justifie, le désir des Anglais, encore une fois, beaucoup plus que des Britanniques en général.
Puisqu'évidemment, il faut rappeler que les Écossais sont pas tout à fait d'accord avec ces décisions de voir les choses. Ils envisagent d'ailleurs de prendre leur indépendance. Est-ce que ça se fera ou non, on verra. Et les Irlandais du Nord, c'est la même chose.
Oui. C'est la même chose. Oui. C'est aux Britanniques que j'ai pensé tout de suite lorsque le Brexit a été déclaré. ça risque d'être très, très problématique pour les Britanniques eux-mêmes, beaucoup plus que pour les
Européens.
Beaucoup
plus que pour les Européens, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit généralement. Oui. Vous avez évoqué la démocratie en Europe. Est-ce qu'on peut dire que l'Union Européenne est moins démocratique que les États-nations qui la composent? Après tout, il y a un Parlement qui est élu par les Européens, même si les Européens ne participent pas beaucoup à cette élection. Un Parlement qui a de plus en plus de pouvoir, qui co-légifère. Il y a un président du Conseil qui est tout de même choisi par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne, un président de la Commission qui est issu du résultat des élections européennes. Donc, en termes de démocratie, est-ce que finalement l'Union Européenne est si peu démocratique qu'on ne le dit généralement?
C'est-à-dire que ce serait inapproprié d'évaluer l'Union Européenne à l'aune des critères qui nous servent à évaluer les États nationaux. Parce que l'Union européenne ne doit pas, à mon avis, être considérée comme une grande nation coiffée d'un État fédéral supranational. C'est une erreur d'orientation.
Donc, il faut le rappeler, l'intégration européenne n'est pas un État.
N'est pas et n'a pas vocation, c'est pas une république fédérale inachevée, l'Union européenne, contrairement à ce qu'aimeraient beaucoup, et les Allemands en particulier d'ailleurs, mais pas seulement eux, les fédéralistes d'une façon générale, c'est une erreur d'orientation. Et c'est pourquoi j'ai du mal à me faire entendre, bien que ça fasse maintenant nettement plus de 20 ans que je milite pour l'Europe et pour une certaine voie horizontale d'intégration. J'aurais tendance même, non pas vraiment à renvoyer dos à dos souverainistes et fédéralistes, mais à ne... Ce n'est pas parce qu'on est anti-souverainiste national que l'on doit être pour autant fédéraliste supranational. Ce que je veux dire par là, n'est-ce pas, c'est qu'il nous faut penser un schéma tout à fait original, et je dirais essentiellement horizontal, d'intégration de l'Union européenne, d'intégration politique. Que veut dire horizontal? Ça veut dire que cette intégration ne doit pas se faire par subordination des États à une puissance publique supranationale, mais par concertation des États entre eux et par coordination de leur politique publique. C'est pourquoi, encore une fois, et j'y reviens, il nous faut une autorité qui agence ces processus horizontaux de concertation et de coordination. Et cette autorité nous fait cruellement défaut au niveau gouvernemental.
Cette autorité, c'est un président de l'Europe, même si l'Europe n'est pas un État?
C'est un président de l'Union européenne qui n'est pas souverain, bien sûr. L'autorité, ce n'est pas la souveraineté. Les États restent souverains. Pour le dire un peu plus précisément, ils sont souverains de toute façon au sens d'une souveraineté négative, c'est-à-dire au sens où on ne peut pas les contraindre par force. Et ils ont toujours un droit de veto et un droit de retrait. Et ça, c'est l'aspect souveraineté négative, dirais-je. Mais la souveraineté positive, c'est-à-dire la capacité d'agir efficacement, de maîtriser le destin, ils l'ont perdu individuellement et ils en font la cruelle expérience. C'est le motif, la raison principale pour laquelle les responsables politiques de premier plan sont tous européens, d'une façon presque tous européens, dès qu'ils arrivent en responsabilité. Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau individuel, ils ne peuvent pas agir seuls. Donc la souveraineté positive, c'est-à-dire la capacité d'agir efficacement, ils ne peuvent la recouvrer que dans l'Union, c'est-à-dire en co-souveraineté. Et c'est cette co-souveraineté horizontale qu'il s'agit d'organiser. Ça, c'est la voie difficile. C'est un apprentissage moral et politique que d'apprendre à s'entendre et de réaliser des consensus, même si c'est pas exactement la même chose que l'unanimité.
Et pour les Européens, pour les citoyens européens, ça veut dire qu'il faut peut-être un peu plus, un peu mieux incarner l'Europe.
Alors, le problème, vous m'avez parlé des institutions. C'est vrai qu'il y a un quasi-gouvernement, mais je m'empresse de dire... Où est-il? Parce que ça, le Conseil a voulu, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec...
Le Conseil qui est, rappelons-le...
Le Conseil des chefs d'État.
Les chefs, Conseil la réunion européen. Des chefs d'État et de
voilà,
gouvernement.
Celui-là, cet aspect-là. Ils avaient voulu, ensemble, Français et Allemands, ériger, en quelque sorte, un gouvernement exécutif. Depuis quand un gouvernement, dans notre culture politique, est-il soustrait à toute responsabilité? Parce que le Conseil est légitimé par ailleurs. Sa responsabilité politique ne peut pas être mise en cause. Il n'y a que la Commission qui soit politiquement responsable. Mais la Commission, le Président, quel qu'il soit, quelle que soit sa personnalité, il n'a pas l'investiture, l'onction démocratique qui lui permettent d'avoir la légitimité et la
même
visibilité.
Même si ça a un petit peu changé lors des dernières élections européennes, oui, puisqu'on a dit que le parti qui arrivait en tête des élections, qui gagnait ces élections, eh bien, le président de la Commission serait issu de ce parti. Il y a quand même une évolution.
Oui, c'est juste, mais c'est encore beaucoup trop indirect et beaucoup trop éloigné, beaucoup trop abstrait. Voyez-vous, ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est d'une part un président très fort et très légitime du point de vue démocratique, on pourra y revenir, et d'autre part une assise substantielle très parlementaire. Le Parlement européen est très loin de suffire, il est très loin de représenter à lui seul la totalité du pouvoir parlementaire ou délibératif européen. Il nous faudrait mettre en connexion tous les parlements européens, nationaux, voire régionaux, horizontalement entre eux. Nous en avons les moyens technologiques avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Horizontalement entre eux et verticalement, mais dans les deux sens, ils seraient reliés au Parlement européen qui apparaîtrait du coup comme la clé de voûte et le lieu de synthèse des réclamations, des suggestions émanant de l'ensemble des parlements européens. J'entends des parlements nationaux et régionaux, encore une fois. Et c'est la seule manière d'avoir une irrigation démocratique de l'espace européen dans son ensemble. Sinon, nous n'aurons pas l'assise qui fasse le contact avec les citoyens. Le grand risque d'aujourd'hui, c'est le décrochage. Le décrochage du pouvoir ou du système européen par rapport aux opinions publiques nationales. Et la classe, voyez-vous, qui est favorable à l'Europe, elle va voir s'effriter son électorat sous ses pieds. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle va être réduite à une peau de chagrin. Si on ne reprend pas le contact avec les opinions et avec les peuples.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Jean-Marc Ferry, professeur de philosophie et titulaire d'une chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Alors Jean-Marc Ferry, la devise de l'Europe, c'est « unie dans la diversité ». Alors est-ce qu'on va... Alors, la question se pose, est-ce qu'on est de plus en plus unis ou est-ce qu'on est de plus en plus divers? Si on regarde un peu ce qui se passe entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, entre les pays d'Europe centrale et les pays dits occidentaux de l'Europe, on se rend compte que, eh bien, l'unité, on a du mal à la trouver et la diversité s'oppose à l'unité, notamment sur, à travers Monsieur Orban ou Monsieur Kaczynski en Pologne ou en Hongrie, sur le thème des réfugiés. L'approche n'est pas la même. Et ça en dit long sur cette diversité de l'Union qui peut conférer à la désunion plutôt qu'à l'Union.
C'est pas exactement la devise, mais ça aurait dû l'être. Et il y a beaucoup d'États qui ont voulu garder cette devise. In varietate concordia en latin, unis dans la diversité, traduit-on souvent. C'est une très belle devise, simplement il faut la préciser. Parce que la diversité, c'est la diversité surtout des cultures, des langues, peut-être dans une certaine mesure des systèmes sociaux, juridiques, nationaux. Entre parenthèses, cette diversité culturelle et linguistique, elle en prend un coup. Parce que malheureusement, c'est l'anglais qui s'est imposé. Dès que vous voulez déposer un projet de recherche, pas seulement dans les sciences dures, ni en sciences économiques, mais aussi même en philosophie, vous devez le rédiger en anglais, vous devez avoir publié dans des revues de langue anglaise avec comité scientifique, ça devient... odieux. On devrait différencier.
Mais si on parle 24 langues, il y a 24 langues officielles au sein de l'Union européenne.
Oui, mais enfin, là, ça devient maintenant. En fait, il y avait trois langues de travail, c'était l'allemand, le français et l'anglais. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et puis on n'a pas, je crois, l'erreur. C'est vrai que c'est évidemment, c'est la nouvelle, l'anglais, c'est la lingua franca d'aujourd'hui, c'est clair. Mais on n'a pas fait cette distinction très essentielle que je renvoie pour cela à mes amis qui ont écrit à ce sujet, Heinz Wissmann et Pierre Judet de Lacombe sur les langues de l'Europe. Ils ont introduit, ils suggéraient cette distinction très intéressante entre langue de culture et langue de service. Langue de service, c'est très bien que ce soit l'anglais pour le business, dirais-je, pour les institutions, pour l'administration. Mais la langue de culture, ça doit rester des langues nationales. Comment voulez-vous exprimer, produire quelque chose de profond si ce n'est pas dans votre langue maternelle? Ça doit le rester. Donc là, et, le principe de la diversité culturelle et linguistique, lui-même, on prend un coup sérieux. Mais ça, c'est de l'ordre culturel. Simplement, il y a une unité absolument nécessaire. Et là, je renvoie aux critères de Copenhague. Comme on dit qu'ils sont des critères d'appartenance, au fond, à l'Union. On disait des critères d'adhésion, mais maintenant, ça pourrait aussi, et ça devrait, être des critères d'exclusion, éventuellement. C'est-à-dire, il y a trois critères, pour le dire très simplement. Et c'est le premier qui m'intéresse le plus. Il y a le premier critère, c'est que tous les États membres de l'Union soit acquis et vraiment intériorisé les principes de l'état de droit démocratique, les droits de l'homme, les libertés fondamentales. C'est un critère non suffisant, mais absolument nécessaire et sine qua non. C'est ce qui différencie l'Union européenne de toutes les autres organisations. Regardez l'ONU, il peut y avoir des dictatures, des pays totalitaires. L'Union européenne, elle correspond au schéma qu'en son temps, 1795, Kant avait élaboré à propos d'une union cosmopolitique son premier article définitif, comme il l'appelait, « Tous les États membres doivent avoir une constitution républicaine », disait-il. Républicain dans l'esprit de Kant, ça voulait dire état de droit démocratique qu'on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est le premier critère absolument. On doit être intransigeant là-dessus. Les autres, c'est l'interopérabilité économique, et puis un troisième critère un peu plus communautariste, plus culturel et plus feutré, peu importe. Mais le premier critère, et on doit être rigoureux et intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que des pays, et j'ose le dire, des États, qui comme la Pologne et la Hongrie aujourd'hui, se montrent particulièrement réfractaires aux principes fondamentaux des droits de l'homme et de l'état de droit démocratique, ceux-là doivent être sanctionnés. C'est pas parce qu'on aura élu, comme on avait fait par exemple en Autriche, un leader populiste, qu'il faut sanctionner le pays en question. La question n'est, on n'a pas à juger, on n'a pas à sanctionner les votes démocratiques des peuples.
Simplement,
mais en revanche, les pratiques des gouvernants, quand elles ne sont plus conformes aux principes de l'état de droit démocratique, doivent être sanctionnées.
Jusqu'à l'exclusion ?
Jusqu'à l'exclusion, bien entendu, s'ils ne veulent rien entendre. Parce qu'il faut un vrai contrat social européen à cet égard. Droits fondamentaux, valeurs de l'Union, principes politiques de base, vous avez l'élément du contrat social. Et là, vous pouvez vous contenter de mettre ce corpus-là, en proposition aux 28 ou 27 peuple européen, celui qui refuse s'exclut de lui-même de l'Union. Donc la conditionnalité est très forte. Comment peut-on refuser les droits fondamentaux sans s'exclure soi-même de l'Union ? La conditionnalité est très forte et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on a toutes les chances de réussir l'adoption d'une constitution de cette nature, beaucoup plus qu'en fourguant des critères du type concurrence non faussée.
Jean-Marc Ferry, où s'arrête l'Europe ? Au sud ? À l'est ? Un des aspects qui perdure, les Européens, c'est cette Europe qui s'élargit sans fin, et cette Europe sans frontières, elle s'arrête où l'Europe ?
Voyez-vous, je vais vous répondre un tout petit peu à côté pour commencer. C'est qu'on a élargi l'Europe pour des mauvaises raisons, qui étaient des raisons d'économie d'échelle et de grand marché sous l'influence des Anglais. On aurait dû l'élargir sous les critères de Copenhague dont je viens de parler. C'est-à-dire, il faut avoir préalablement intériorisé, véritablement dans les pratiques du gouvernement et aussi dans la culture publique, les principes de l'état de droit démocratique. On peut vous y aider, mais si vous ne l'avez pas fait, niette. Donc, il y a déjà un principe de fermeture. Hélas, le monde n'est pas constitué que d'état de droit démocratique, n'est-ce pas ? Il y a aussi un principe réaliste qui est géopolitique, c'est-à-dire que même si l'Australie est un état de droit démocratique, on ne va pas faire une Union européenne avec l'Australie, n'est-ce pas ? Donc il y a un principe de bon sens, qui est physique, en quelque sorte, si je puis dire, une contrainte physique plutôt qu'un principe physique. Mais le principe politique, il est là. C'est les critères de Copenhague. Et c'est un principe de fermeture. Donc, il n'y a pas de raison de comparer l'Europe à l'Empire, c'est-à-dire avec des limesses, puis c'est indéfini, etc. Non, il y a des critères très fermes. Un empire, il veut toujours s'agrandir. Il est hégémonique, l'Empire. L'Union européenne n'est pas hégémonique.
L'Union européenne n'est pas un empire non plus.
Et, oui, mais beaucoup de théoriciens le disent. Et surtout du côté allemand. On aime bien se référer au modèle de l'Empire pour concevoir l'Europe. C'est une tentation. Et aussi en Italie.
Alors, vous n'avez pas répondu, l'Europe s'arrête où ? Où commence le reste du monde ?
On ne peut pas le dire d'avance. C'est pour ça que je vous ai répondu un petit peu latéralement. C'est qu'on ne peut pas le dire d'avance. On a une contrainte physique. Moi, je dirais que la contrainte, elle est de bon sens. Elle est telle que De Gaulle l'avait dite, c'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oural, tout simplement. C'est une limite physique. C'est un horizon, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on exclurait la Géorgie, par exemple, a priori, n'est-ce pas ? Ou l'Arménie.
C'est la Russie, dans ces conditions.
Et bien sûr, et pourquoi a-t-on... Et Gorbatchev était tout à fait chaud pour...
Avec sa notion de maison commune.
Et avec sa notion de maison commune. Et je regrette, d'ailleurs, que l'on ait barré cette proposition de la Russie à l'époque. Je le regrette très très profondément, parce qu'elle va s'orienter vers toute autre chose maintenant. La Turquie, à l'époque, était acceptable du point de vue des critères de Copenhague. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais malheureusement, on l'a refusée sous de mauvaises raisons. On a dit, et je ne veux pas dire qui l'a dit, parce que ce ne serait pas gentil, mais un grand Européen a dit non, parce qu'elle est asiatique et islamique. C'est tout ce qu'on veut sauf une bonne raison. Ça n'est pas dans la philosophie de l'Europe. Les critères de Copenhague n'ont jamais été culturalistes, encore moins ethnicistes.
Jean-Marc Ferry, longtemps l'Europe s'est créée universelle. Elle a longtemps imaginé que par capillarité, son modèle de développement et d'organisation allait se répandre et que le monde allait lui ressembler. Ce n'est pas le cas, hein. D'autres systèmes autoritaires et non démocratiques prospèrent. On peut évoquer la Russie, la Chine, la Turquie. Est-ce que c'est un élément important qui explique le désarroi des Européens ? L'Europe n'est plus au centre du monde.
L'Europe n'est plus. Alors c'est deux choses un petit peu différentes. Elle n'est plus centrale, c'est vrai. Et d'autre part, elle ne veut pas devenir planétaire. C'est deux choses un petit peu différentes, n'est-ce pas? Mais quand même, elle a très largement donné ses lois au monde, si j'ose reprendre une formule de Kant, qui le parlait à l'indicatif futur, au futur de l'indicatif. Elle donnera ses lois au monde. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans cette idée qui a donné lieu à un livre bien connu de Francis Fukuyama qui s'appelle « La fin d'histoire et le dernier homme ». C'est que les institutions libérales sont les institutions légitimes aujourd'hui. Libérales au sens américain du mot, n'est-ce pas? Pas au sens de nos campagnes présidentielles d'aujourd'hui. Mais c'est-à-dire des institutions qui mettent en exergue et en principe premier l'égale liberté des individus. Alors, J. Penn a imaginé que ce ne soit pas la première normativité au monde aujourd'hui. Regardez la Déclaration universelle.
C'est le soft power de l'Europe, comme on dit.
En même temps, oui, français. Parce que c'est là que l'Europe fait jouer ce qu'on appelle techniquement la conditionnalité positive. C'est-à-dire, on va coopérer avec vous, mais il s'agit surtout de la périphérie, à condition que vous soyez correct. Pas exemplaire, mais correct. C'est-à-dire, vous ne portez pas des atteintes flagrantes à ce socle, en quelque sorte, de légitimité. Alors, l'Europe a renoncé à être, bien sûr, ça, on ne lui demande pas son goût, elle n'est plus le centre du monde, c'est clair, et elle a renoncé à être mondiale, en quelque sorte. Et quelle est la nouvelle philosophie? C'est, je crois, on peut se référer, pour faire un petit peu de politique, à un discours intéressant et important qui avait été prononcé en son temps par Dominique de Villepin, quand il était ministre des Affaires extérieures, à Londres. C'est une vision de l'ordre mondial qui, à mon avis, fait assez largement consensus dans les milieux politiques. C'est l'idée que nous nous acheminons vers un système de relations plus intercontinentales qu'internationales, et avec des entités métanationales à structurer. Évidemment, l'Union européenne est la première dans cette voie, mais il y a aussi Mercosur, plus CAN, la communauté andine en Amérique du Sud. Il y a ASEAN en Asie du Sud-Est. Il y a SAARC en Asie du Sud. Il y a ANZERTA en Australie-Nouvelle-Zélande. Il y a ALENA en Amérique du Nord. Il y a quelques organisations africaines, etc., etc. Et l'idée, c'est que il faudrait aider les continents à se structurer à cette échelle, parce que l'échelle d'interdépendance est devenue planétaire. Donc il faut
l'Europe,
un rattrapage.
C'est la bonne taille.
L'Europe est presque, n'est même plus vraiment la bonne taille. Enfin, c'est mieux que nos petites nations européennes, qui ne sont pas comparables aux grandes nations comme l'Union indienne, la Chine.
Je crois que c'est Paul Respa qui a dit ça. En Europe, il y a deux sortes de pays, les petits et ceux qui ne savent pas qu'ils sont petits.
Exactement. C'est très juste. C'est tout à fait. Oui, je retiens. Vous avez bien raison.
Jean-Marc Ferry, on arrive au terme de cette émission. Dans l'idée d'Europe ou un ouvrage collectif que vous avez dirigé et qui a été publié en 2013, vous écrivez, si le projet européen échoue, ce qui demeure possible, ce sera par apathie politique. Ça veut dire par manque d'ambition de nos hommes politiques à l'échelle européenne, faute de grands Européens, ou par l'apathie des citoyens européens qui ont été très heureux de vivent dans une insouciance européenne qui les a quand même confortés dans un certain confort.
Je dirais que c'est un manque de courage de la classe politique avant tout, qui peut aussi induire une apathie de la part des peuples européens par rapport à un désintéressement à l'égard de la question européenne. Mais le courage politique, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est d'abord prendre le risque de la démocratie pour l'Europe. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce que veut dire prendre le risque de la démocratie? C'est pas seulement des réformes institutionnelles, et je dirais même, c'est pas avant tout des réformes institutionnelles comme celles que j'ai évoquées, un vrai président de l'Union, mais on n'a pas développé, mais qui aurait une onction démocratique très forte à partir des parlements nationaux, plus le rattachement de ces parlements nationaux qui seraient interconnectés entre eux. Ça, c'est institutionnel, mais ce qui est plus plus important à mes yeux. C'est un changement de style, de registre dans le discours politique à l'égard des peuples ou des publics, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Voyez-vous, quand il y a des sommets européens, en général, ça se passe à l'hôtel Conrad à Bruxelles. Et alors, par exemple, puisque c'est quand même les deux leaders, le président français, le chancelier et la chancelière allemande sortent la main dans la main en disant, nonobstant quelques divergences, nous sommes d'accord sur le fond. Rien n'est plus faux. Et donc, voilà le problème. Voyez-vous, on reste attaché au style diplomatique, qui est un style de négociations discrètes, voire secrètes, c'est donc un style privé et non pas public. Il y a une privatisation du politique européen. Et la vraie politéia européenne, elle dépend d'une mise en arène publique des contentieux. Par exemple, si le président français avait, avec la chancelière allemande, dit « Voilà, on est assis amis pour nous expliquer ouvertement devant les publics. On fait une conférence de presse à deux et on dit pourquoi on n'est pas d'accord sur l'orientation de l'Europe. Et on échange nos arguments. Nous n'avons rien à craindre de nos divergences parce que nous faisons confiance. » Et du coup, c'est prendre au sérieux les citoyens européens. Ne plus les traiter comme des enfants en leur disant que tout va bien.
J'ai compris, Jean-Marc Ferry, que vous pensez que les Européens sont capables d'entendre la vérité sur la situation de leur continent et qu'ils sont adultes. Merci Jean-Marc Ferry d'avoir été au Carrefour de l'Europe. L'idée d'Europe que vous avez dirigée, publiée par les presses universitaires Paris-Sorbonne, réalisation Guillaume Munier. Vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr, sur les applis mobiles de RFI, mobiles mais gratuites. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI, plein de choses vous attendent. On reste bien sûr en contact via Facebook et Twitter. Daniel Esquel, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.